Bienvenue sur mon podcast « Fais voyager ton entreprise ». Tu le sais, cette semaine, comme tous les semaines, je reçois des invités de marque. Mais cette semaine, j'ai un invité de cœur, un invité que je connais depuis très longtemps, mais qui a accepté, malgré tout son agenda, vraiment hyper occupé. Donc, je suis très, très, très fière de te présenter Mélissa Normandin-Roberge. Bonjour Mélissa, comment vas-tu?
Allô Lucie, ça va bien. Petite extinction de voix, donc il faudra peut-être monter le son parfois, mais sinon tout va bien. Je suis très contente d'être là. Merci de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. Puis de toute façon, avec la technologie aujourd'hui, deux pistes, on montrera un petit peu le son.
Exact.
Fait que ne force pas pour rien, on va tout organiser ça. Donc, dis-moi Mélissa, évidemment, on va parler de voyage. Et la question que j'aurais le goût de te poser, quel est le voyage qui t'a le plus transformé, qui vraiment pour toi là, est quelque chose qui est important dans ta vie que tu as vécu?
En fait, c'est drôle, quand tu m'as posé cette question-là, juste avant qu'on commence à enregistrer, tu sais, je me remémorais, moi j'ai été des années à ne pas voyager. Des années à ne pas avoir ni l'argent, me faire croire que j'avais pas le temps, ne pas savoir comment faire le premier pas. Puis pourtant, quand j'étais plus jeune, enfant, ado, j'avais quand même voyagé pas mal. J'allais souvent en Floride. J'allais pas très loin, on va se le dire. Mais quand même, il y avait quelque chose dans le voyage qui m'attirait beaucoup. Et moi, ça a été une énorme prise de conscience, donc vers 30 ans, de faire « Arc, j'ai pas voyagé et c'est ça que je voulais toute ma vie, c'est ça que j'ai voulu. » Puis là, je suis là à me dire, je vais me le payer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, parce que j'ai les enfants, parce que là, je veux les emmener avec moi, bref. Et j'ai fait le premier vrai voyage et qui a complètement changé ma vie par après. En fait, il y aura toujours un avant et après Barbade. En 2016, ma meilleure amie, en fait, habite là.
OK.
Donc, elle m'a invitée, puis on a fait « OK, on va y aller ». À ce moment-là, j'étais encore avec le père des enfants et j'ai 3 enfants qu'on emmène avec nous. Et honnêtement, je suis plongée dans un environnement parce que la Barbade, c'est déjà magnifique, mais mon ami, ils sont très fortunés. Donc, je suis dans un milieu où c'est des maisons de plusieurs millions de dollars et il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ma tête à ce moment-là, c'est de faire « OK, ben moi, c'est ça que je veux pour ma vie. À partir de maintenant, ça va être ça. Toujours. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais y arriver. » Mais je refuse de revenir dans la normalité.
Mm-hmm.
C'est fou parce que ça a été le début de la fin de beaucoup de choses, de ma première entreprise, de ma relation, de ma vie ancienne, en fait. C'est pas mal terminé là dans ma tête. Et quelques mois après, j'ai fait les actions pour. Et à partir de là, j'ai voyagé minimalement 4, 5, 6, 7, 8 fois par année. Mm-hmm. Parce qu'il y a vraiment eu une brèche qui s'est créée de faire « je veux revivre ce sentiment-là tout le temps ». Puis l'année dernière, on était en fait, en 2016, on avait été invité dans une villa, dans un quartier qui s'appelle Sandy Lane. Et la villa, j'étais tombée en amour avec la villa. J'étais rentrée, j'avais fait comme « oh my God, comment c'est possible de louer ça ?» Et je m'étais promis, un jour, je vais revenir et c'est moi qui vais la louer. Et l'année dernière, c'est exactement ce qu'on avait fait. On avait fait gagner des femmes de ma communauté et on les avait emmenées dans cette villa précise-là, la villa Alila à la Barbade. Et je voyais en fait tout le chemin parcouru depuis, tu sais, c'est quand même pas tant que ça, 7 ans.
Ouais.
7 ans, il y a un monde qui peut se passer. Mais de constater que, tu sais, à toutes les fois en fait que j'arrive dans l'avion, je compte le nombre de fois que je prends l'avion.
Mm-hmm.
J'ai besoin de beaucoup plus que mes 10 doigts, puis beaucoup plus que mes 2-10 doigts, puis mes doigts. Tu sais, c'est fou de voir que là, je me suis autorisé ça, et que depuis que je me suis autorisé ça, ma vie a complètement changé.
Est-ce que tu dirais que, parce que moi, je dis tout le temps, si on n'a pas de cible, c'est très difficile à atteindre un objectif. Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, la prise de conscience que tu as fait, c'est de faire le constat que tu n'avais pas cette cible-là, et à partir du moment que tu l'as mis en place, tout a découlé?
Oui, absolument. Et il y avait la croyance aussi. La croyance que, premièrement, un voyage par année, c'est déjà beaucoup pour la majorité des gens. Et là, de me dire, est-ce que je pourrais comme plus qu'une fois par année? Ça pourrait être 2, 3. Et là, de travailler vraiment ma croyance de faire, tu sais, ça n'a pas d'allure, t'es qui toi pour faire ça, mais t'as pas l'argent, puis blablabla. Tu sais, toutes les raisons étaient bonnes. Donc, le manque de cible, oui, mais surtout le changement de croyance.
Mm-hmm.
C'est pas normal de voyager plus qu'une fois par année, je veux dire ça. Et je vois, tu sais, j'ai le très, très grand privilège d'être mentorée par Daniel Lamarre du Cirque du Soleil. Daniel doit partir à l'étranger minimalement 3 fois par semaine. Mm-hmm. C'est une question de perception, de contexte, de croyance. Évidemment que c'est un coût voyager. Est-ce qu'on peut faire un sacrifice pour y aller? Moi, je crois pas beaucoup à la notion de sacrifice, je crois beaucoup plus à la notion de choix. Si pour nous, c'est important de voyager, pour moi, c'est devenu une valeur, en fait, l'aventure, la liberté, plus que le voyage en soi, ben c'est devenu une de mes priorités numéro un. C'est super important pour moi de voyager, de faire aussi découvrir le monde à mes enfants. Mes enfants sont pas très très grands encore, quoi qu'ils sont grands un peu, là, mais bref, c'est plus des tout-petits non plus. Mais ils ont tellement fait d'endroits, tu sais, des fois, il faut que je les ramène un peu sur le plancher des vaches, je vais faire comme, est-ce que tu réalises? Mm-hmm. Moi, à ton âge, j'avais pas visité tous ces pays-là. Là. J'avais visité un pays, c'était les États-Unis, c'était la Floride, ce qui était déjà énorme, tu sais. Mais c'est tellement un privilège, c'est tellement une chance incroyable que tant que tu n'y as pas goûté, je pense que tu peux pas comprendre à quel point c'est extraordinaire.
Ouais, absolument. Puis, tu sais, oui, quand on parle de voyage, c'est différent de vacances aussi, hein. Tu sais, moi, pendant des années, quand j'étais en finance, c'est 25 ans que j'étais en finance, je prenais des vacances et je m'amusais à dire, j'allais m'échouer sur le bord de la mer, brûlée, fatiguée, épuisée. Mm-hmm. Et à partir du moment que j'ai commencé à voyager pour découvrir le monde, découvrir comment les autres cultures vivent, comment, justement, tu sais, dire, on se promène pas toujours dans les 5 étoiles, là. On va aller voir comment ces gens-là vivent dans la réalité. Tu sais, quand on est allé en Égypte, en tant que on est dans un autre monde, là, et on vient découvrir à ce moment-là vraiment d'autres cultures. Quelle culture tu dirais qui t'a le plus marqué dans tous tes voyages que tu as fait?
Je dirais celle du Vietnam. Le Vietnam, en fait, j'étais assez dépaysée et en même temps émerveillée de voir ces gens-là qui sont tellement accueillants, qui sont, on a l'impression qu'ils sont très, très rapides. Et en même temps, c'est comme pas tant ça, c'est plus un espèce de dévouement, je trouve, envers eux, envers les visiteurs qui sont là. Donc oui, évidemment que le Vietnam va avoir été, sans aucun doute, le pays qui m'a le plus déstabilisé et en même temps le plus émerveillé, j'ai l'impression. Ouais, je dirais le Vietnam.
Écoute, je suis allée, j'ai eu la grande chance d'aller au mois de mai l'année dernière, et moi, il y a le mot résilience qui me vient quand je parle des Vietnamiens. Tu sais, quand tu t'expliques s'il y a eu des bombes, il y avait un trou, on peut plus faire pousser de riz, donc on fait pousser des champignons. Ouais, mais ils disent pas ça par pitié, là. Ils disent ça pour expliquer comme. Puis là, t'es là comme OK, donc vraiment résilient, là. Ouais. C'est comme ça date, hein? Et quand tu disais revenir sur le plancher des vaches, c'est ça, hein, ça nous ramène à OK, nous on se plaint des fois puis on a le ventre plein, comme on dit.
Oui, et tellement, tu sais, moi ce qui m'avait frappé, c'était tout l'accueil. Mm-hmm. Vraiment accueillant, vraiment aidant, bienveillant. Il était vraiment présent, en fait.
Oui, je suis d'accord avec toi. Puis moi aussi, je suis tombée en amour avec le Vietnam, mais avec le peuple vietnamien, bienveillant, résilient, et tout ce que tu voudras, le sourire, là. C'est un beau pays. Ouais. Dis-moi, quel pays tu n'as pas fait encore, ou quelle place tu n'as pas fait encore, qui sont dans tes choix futurs?
Ben là, je m'en vais au Portugal, en fait début juin, puis c'est vraiment le plus long voyage que j'ai fait, parce que moi, je trouve ça toujours très drôle de le dire, mais j'ai visité énormément d'endroits en très peu de temps. Moi, le Maroc, je suis allée 3 jours, je suis allée à Venise 3 jours, je suis allée au Vietnam 6 jours, je me suis jamais vraiment déposée en voyage, et c'est un concours de circonstances. En fait, quand on disait tantôt, pas faire de sacrifice, moi, c'était ma façon de pas faire de sacrifice, c'est-à-dire que si je voyageais, j'avais des jeunes enfants, je voulais pas partir longtemps, et je voulais voyager. Donc, le choix que je faisais, c'était de dire, OK, j'accepte que je vais y aller vraiment pas longtemps, genre le Maroc, je vais être là 3 jours, puis en même temps, j'allais travailler. Mais je revenais puis j'étais vraiment contentée. C'était comme, j'y ai goûté, je reviens, je suis avec mes petits, j'ai pas eu l'impression que j'ai dû me stretcher ou me dénaturer, j'ai fait les deux, puis c'est ça que je voulais. Donc là, je m'en vais au Portugal pour la première fois, beaucoup de jours, 17 jours avec mon chum, collé. Je dirais que, retournant en Asie, c'est clair que je voudrais, et je pense que je retournerai au Vietnam et je ferai probablement la Thaïlande, mais c'est que au moment où j'ai visité le Vietnam, c'était peut-être pas dans les conditions idéales en termes d'accompagnateur, J'aimerais ça le revoir d'une autre façon. J'aimerais ça revoir, en fait, si tous les souvenirs que j'ai sont aussi beaux que ce que j'ai, puis ceux qui sont moins beaux, de comme aller revalider parce que j'ai l'impression que c'était pas du tout le pays en soi. Donc ça m'attire énormément. C'est sûr que l'Europe, tu sais, reste encore tellement de belles choses à voir. Je suis allée en Italie, je suis allée à Venise, je suis allée en Espagne, mais trop des petits moments. Donc, je pense que j'aimerais y retourner plus longtemps. Je sais pas si c'est une destination plus que j'aimerais plus me déposer en voyage.
Je comprends. Non, je comprends tout à fait parce que, tu vois, je comparais à ma belle-fille qui a fait le Vietnam, mais elle a fait le nord au sud. Exemple, à peu près le même nombre de jours que moi, une quinzaine de jours. Puis elle est restée 2-3 jours à chaque place. Moi, je suis restée 15 jours, mais au même endroit. J'ai tout visité ce qu'il y avait alentour. Là. Tu sais, le plus loin qu'on pouvait aller, on le fait. Fait que j'avais une journée sur la plage, une journée de visite, une journée sur la plage, une journée de visite. Puis là, c'était drôle parce que je pense que je sais pas si tu t'en souviens, mais au Vietnam, ils se baignent pas, eux, dans la journée. Hein. Fait que j'étais tout seul dans le jour sur la plage.
C'est vrai, j'avais oublié ça.
Ben oui, eux, ils se baignent très tôt le matin ou très tard le soir. Fait que nous, on est en train de manger, puis eux autres, ils se baignent en famille et tout. Fait que je trouvais ça très drôle parce que j'étais la seule touriste à se faire bronzer. C'est bon. Là, je disais que non, il y a personne au Vietnam. Ou... Donc, oui, c'est des belles endroits. Mm-hmm. Mais dis-moi... Mélissa, comment ça t'a transformé, toi, à part le fait de dire, OK, moi, je veux faire ça dans la vie, c'est mon objectif, comment ça t'a transformé intérieurement en tant que femme?
En fait, c'est que j'ai comme compris à quel point j'ai des limites, comme la majorité des êtres humains, puis le fait de voyager te permet de défaire ces limites-là, te permet de voir qu'il y a tellement de possibilités puis qu'il y a tellement de choses que tu ne connais pas encore. Donc, mm-hmm. Je pense que ça m'a donné encore plus une curiosité, ça m'a donné une envie de découvrir encore plus puis de renforcer ce sentiment-là de liberté que j'ai et que je pense que je vais avoir toute ma vie, de le valider. Mm-hmm. C'est sûr que je ressens cette liberté-là, il y a tellement de choses à découvrir. Absolument. Ça a provoqué aussi très fort probablement j'ai une urgence de vivre qui est assez forte à la base, mais de me mettre en action pour, tu sais, quand il y a parfois, il y a des moments où je vais peut-être plus procrastiner ou peut-être que je vais comme être moins à mes affaires, je me rappelle qu'il y a ça aussi. Ce que j'ai envie de faire avec mon entreprise, c'est aussi pour me permettre d'avoir ce sentiment de liberté-là. Tu sais, dernièrement, j'ai emmené mes parents justement à la Barbade, mais ils ne le savaient pas. Je leur ai dit comme 3 jours avant, je vous emmène en voyage, je ne vous dis pas où. Mm-hmm. Amenez dans vos bagages, costume de bain, amenez-vous dans vos bagages du linge chaud. Et ils l'ont su vraiment juste avant d'entrer dans l'avion quand on allait à la Barbade. Puis je me disais, OK, et si ça devenait comme la norme, ma norme?
Absolument.
On s'en va dans 3 jours, je vous dis pas où, à tous les gens que j'aime. Et c'est vraiment le fait d'ouvrir cette brèche-là de voyager qui m'a connectée à cette espèce d'instantané, de spontanéité-là pour me permettre de vivre des aventures extraordinaires. Donc, vraiment de déverrouiller les possibilités.
Et si on lançait dans l'univers de faire un voyage annuel avec tes membres, hein, destination surprise?
C'est tellement paillette. C'est tellement comme... C'est très plein de surprises. Tu sais pas où tu t'en vas. Fais confiance.
C'est ça. Voici les dates, parce qu'il faut quand même le prévoir d'avance. Mmh. Mais tout ce que tu vas savoir. Le reste, ça va être
dans ta valise, tu verras.
Exact. On va juste te dire si c'est du linge chaud ou du linge
chaud. Oui, c'est ça. Ah, tu amènes les deux. Tu vas être vraiment surprise.
Malgré qu'il y en a qui amènent beaucoup de souliers dans ta communauté. Fait que. Si on leur demande d'emmener en plus des manteaux d'hiver, ils vont manquer de place.
Je ne ferai pas dans la vie, c'est voyager léger. C'est impossible. J'ai essayé, mais ça ne marche pas.
Moi aussi. J'ai essayé. Écoute, même quand j'accompagne les groupes, j'ai essayé. C'est drôle parce que tu disais, tu sais, notre objectif, pourquoi pas, tu sais, ça et plus, hein, parce que maintenant, quand on demande quelque chose dans l'univers, c'est très important de demander ça et plus. Oui. Puis moi, je me suis dit, mon objectif 2024, c'est de fixer 24 voyages avec des coachs pour 2025. Donc, je dis, à chaque fois que quelqu'un nomme le mot 2024, ça me rappelle mon objectif.
Oui.
24 voyages ici. À tous les jours, je travaille là-dessus, tu comprends?
Oui. J'adore. Ça me rappelle.
Mais dis-moi, Mélissa, à ce moment-là, ce premier voyage-là que tu as fait, qui change la donne et tout ça, est-ce que ça a été le début de Paillette Inc.?
On est dans les... En fait, oui. Paillette commencé à exister. Ça s'appelait Payette, mais c'était pas enregistré. C'était comme un peu nébuleux. C'était pas clair non plus. Mais je commençais à partager avec ma communauté qui, à ce moment-là, il était peut-être 150, 200 personnes, pas plus. Mais c'était vraiment le point tournant de ma vie. C'était vraiment comme, OK, là, j'y vais all-in dans Payette. Parce que je sens que c'est le véhicule qui va pouvoir me permettre de faire ce que je veux faire. Il y aura toujours un avant-après Barbade 2016. Je n'ai plus jamais été la même. Jamais.
Puis dis-moi, tu sais, parce que Payette X, c'est un franc succès. Bravo, d'ailleurs, d'avoir réussi en si peu de temps à réussir quelque chose d'extraordinaire comme tu le fais. Puis tu es magnifique là, dans tes photos sirènes et tout ça. C'est vraiment beau de te voir aller. Qu'est-ce qui a été pour toi un changement majeur au niveau, tu dis, OK, voilà, c'était le début de Payette, je savais pas trop où ce qu'on s'en allait. Qu'est-ce qui a fait la différence avec le résultat que tu as aujourd'hui?
C'est vraiment de laisser libre cours à ma vision. Avant, c'était peut-être plus un rêve. Donc, un rêve, on le prend un peu moins au sérieux parce que on sait pas trop quelles sont les actions qui vont être attachées, puis on se permet de rêvasser. Mais là, ça a été vraiment de dire, je pense que ce rêve-là a du potentiel. Maintenant, je vais consacrer du temps à le faire expandre, à le faire prendre de l'amplitude. Mm-hmm. Et à tous les jours, j'ai commencé vraiment à écrire ma vision. Qu'est-ce que je vois pour ma vie? Comment je vois ma vie? Comment moi je suis dans cette nouvelle vie-là? Donc, de faire des vision boards, évidemment, mais d'écrire vraiment. Puis, tu sais, là, je me rendais compte qu'il y avait tellement de choses dans ma vie avant qui fonctionnaient pas avec qui je voulais être. Mm-hmm. Il y avait des relations autour de moi. J'étais comme, ça fonctionne pas pour la personne que je veux être. Des prises de décision, ça fonctionne pas pour la personne que je veux être. Mais j'ai vraiment pris le temps d'écrire. Puis c'est quelque chose qu'on sous-estime tellement. Tu sais, j'ai tous les cahiers, moi, ici encore, de toutes ces années-là. De 2016, à partir du moment où je commence à écrire, je les ai jamais jetés parce que je trouve ça fascinant de revenir puis de faire « wow, ce que j'ai écrit, c'est arrivé ». Ça, c'est arrivé. Donc, vraiment, de consacrer du temps à ma vision. Puis j'ai encore plus fait la paix avec ça il y a peut-être, je vais dire trois ans et demi. Je trouvais que c'était pas une faiblesse, mais je sous-estimais le rôle de la visionnaire dans une entreprise.
Okay.
Une visionnaire, c'est assis avec son cahier ou avec son téléphone, ça prend des notes pendant que tout le monde travaille à exécuter la vision. Exact. Donc, j'avais une immense culpabilité de... D'ailleurs, j'ai perdu une équipe au complet parce que c'est ce qu'on me reprochait. Tu sais, toi, tu sais pas, nous, on travaille, mais toi, t'as pas l'air de travailler. Tu sais, toi, pendant ce temps-là, tu t'en vas là, puis pendant ce temps-là, tu t'en vas en voyage, justement. Puis j'étais comme, oui, mais à toutes les fois, je reviens de voyage, j'ai 1800 idées. Toutes les fois, j'ai des idées pour l'entreprise, j'ai des idées pour un projet, j'ai des idées de collaboration, Donc, je ne peux plus freiner ça. Et la journée où j'ai fait « là, c'est assez », les reproches, l'équipe dehors, bonsoir. Parce que si on commence à sous-estimer la visionnaire, on tue l'entreprise.
Absolument.
Si on fait taire la visionnaire, on tue des rêves. Mm-hmm. Et je n'ai plus jamais laissé personne faire ça. Et je me suis plus laissée non plus, moi, faire le contraire de ça. Donc, je permets beaucoup, j'invite souvent le côté visionnaire en moi à faire... Aujourd'hui, là, on va écrire. Il y aura pas de travail concret. Je vais juste écrire, je vais juste élaborer des idées, puis on verra ce que ça donnera à la fin de la journée.
Tout à fait. En fait, moi, je dis tout le temps, c'est de prendre le rôle de la paix. Hein, parce qu'être une PDG débordée, présidente, directrice générale débordée qui fait tout et qui fait le dedans et le dessus de l'entreprise, ça marche, mais ça marche pas tout le temps. T'sais, à un moment donné, il faut être capable de déléguer la direction générale, idéalement à plusieurs personnes, un peu ce que tu as fait, et de prendre le rôle de la présidente. T'sais, moi, j'ai toujours dit, dans une équipe de sport, prenons par exemple le président de l'entreprise, le propriétaire de l'entreprise, quand il va jouer au golf, avec l'autre propriétaire, puis qui est en train d'échanger le meilleur joueur, puis sa job est complètement différente, mais est aussi importante, là, parce que le meilleur joueur, c'est lui qui va compter les buts, puis c'est lui qui va amener l'équipe à quelque part. Donc, chacun a son rôle, puis ça, c'est important que tu le mentionnes, parce que beaucoup d'entrepreneurs beaucoup qui réalisent pas ça. Puis c'est beau ce que tu dis de l'avoir réalisé puis aujourd'hui d'accepter que ce rôle-là est aussi important, même plus si on veut avoir une vision d'entreprise. Et si on en parle un petit peu de ta vision future de l'entreprise, où est-ce que tu veux amener Payette Inc?
Oh mon Dieu! Des fois, je pense que je suis pas encore assez visionnaire. Puis c'est drôle parce que justement ce matin j'avais ma rencontre avec mon mentor, puis Et pour lui, c'est tellement d'une évidence, c'est comme, tu sais, il en est quand même le cercle du soleil là où il est aujourd'hui. Fait que, lui, des rêves, ça, il fait pas vraiment peur, là.
Non.
Comment, je pense que tu peux aller encore plus loin. Ah, je pense que ça, tu pourrais aller encore plus loin. Il y a tellement à faire encore. Tu sais, au Québec, je suis connue, mais pas connue. Tu sais, dans le sens que je suis la plus illustre des inconnus.
Non, c'est comme ça.
Mais, je sens que Payette pourrait encore plus avoir un impact auprès des femmes. Pas nécessairement entrepreneur. Évidemment, entrepreneur, oui, mais pas nécessairement, pas que. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir un saut Payette, un saut d'excellence Payette dans toutes les sphères d'une vie, que les écoles adoptent la philosophie Payette. Donc, arrête de brimer sur juste des connaissances, que ce soit juste un parcours très prévisible, qu'on puisse laisser de la place aux talents, aux passions, à ce qui crée de la magie, en fait, dans une vie. J'aimerais que les entreprises aient des sauts paillettes. Quand tu rentres dans une entreprise, tu sais que c'est magique parce que le service est exceptionnel, parce que les produits sont t'amènent tellement de beau dans ta vie. Puis je souhaite, évidemment, que ça expande dans tous les territoires francophones. Tu sais, je pense que l'Europe a besoin de paillettes. Puis quand je dis de paillettes, c'est pas de moi, c'est de la philosophie, de penser comme une paillette, que les femmes reconnaissent enfin leur talent, leur passion, leur essence. Je sais pas encore comment c'est possible. Tu sais, je regarde les grandes artistes, les Taylor Swift de ce monde, et je vois en termes d'impact ce que ces femmes-là peuvent avoir. Puis je me dis, waouh, tu sais, si j'allais jouer dans cette potentialité-là, qu'est-ce que ça pourrait donner, tu sais, de faire... Je suis très, très soucieuse, en fait, de... C'est, ça a l'air con à dire, mais de ma mort. Dans le sens où, la journée où je vais mourir, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que je vais avoir réussi à changer un petit quelque chose dans la vie de quelqu'un ou non, tu sais? Et ce que j'aimerais vraiment, c'est de pouvoir transmettre cette philosophie-là qui va perdurer à travers les années. Tu sais, je souhaite que ma fille reprenne cette philosophie-là, peut-être pas l'entreprise, mais qu'elle repense à être une paillette, puis que d'autres enfants de mes paillettes actuelles deviennent elles aussi des paillettes. Donc, c'est pas toujours une vision très claire, mais je pense qu'en termes d'impact, j'ai encore envie d'impacter le plus de femmes possible parce que j'y crois en tabarouette à cette mission-là.
C'est beau ce que tu dis. Mais tu sais, ça l'implique, c'est moi pour accompagner les PDG débordés à devenir des présidentes libres. Je vois plein de, tu sais, ça l'implique des partenariats, ça l'implique des entreprises connexes, ça l'implique, tu sais, plein de, donc, tu manqueras pas d'ouvrage dans les prochaines années, hein.
J'aime voir qui je deviens aussi à travers le processus, tu sais, Payette, au départ, c'était comme une rébellion pour moi. C'était une rébellion d'avoir sorti d'une relation, puis de faire comme, OK, là, je vais m'affranchir. Puis j'avais l'impression vraiment que l'adolescente prenait beaucoup de place. L'adolescente qui a peut-être pas pu exister comme elle aurait dû. Et là, je sens qu'il y a vraiment, tu sais, Payette, et moi aussi, on est des femmes, on est encore un peu fofolle, mais il y a quelque chose plus dans la sagesse. J'ai hâte de voir où ça va m'amener, tu sais, ces réflexions-là. J'aime imaginer que un jour je vais être vraiment très sage. Encore un peu fofolle, mais très sage, que les gens vont venir vers moi pour me demander mon avis sur des enjeux de société, puis je vais pouvoir vraiment aider à ce sujet-là.
Wow, quelle belle philosophie de vie et de futur. Dis-moi, où est-ce que tu aimerais emmener tes paillettes? Dans quel voyage t'aimerais emmener les paillettes?
C'est clair que moi, j'aime vraiment le fait de les immerser dans un environnement qui est un peu plus luxueux. Puis je m'explique pourquoi. C'est pas, évidemment, pas pour ne pas voir la culture ou quoi que ce soit. Je pense que ça aussi, c'est important. Mais il y a quelque chose qui, dans l'immersion, devient après ça une intégration. Donc, le fait d'emmener les gens, les femmes, dans un environnement plus luxueux, ça leur donne ensuite envie d'accéder, pas à la luxure, mais d'accéder à ce prestige-là qu'elles portent en elles. Puis je trouve souvent que les femmes oublient leur côté prestigieux. On s'est tellement fait dire de pas déranger, de pas être plus que les autres, et qu'on a peut-être oublié qu'on est littéralement des trésors, comme tous les êtres humains, en fait. Donc, c'est sûr que la surprise me parle beaucoup. Ça fait longtemps que c'est des choses que je veux faire. Je sais pas si ça va être avec moi, bien honnêtement, parce que on regarde l'idée d'organiser des trucs sans que je sois là. Parce que ce que je veux, c'est que Payette vive 100 000 ça.
Ouais.
Et qu'on soit vraiment deux entités différentes. Puis que moi, je garde quand même le côté voyage avec ma famille. Tu sais, le temps est tellement précieux que j'ai envie aussi d'être avec ma famille, d'être avec mon chum. Fait qu'il y a vraiment quelque chose dans le fait, puis que je trouve vraiment très cool, en fait, de ce qu'on est en train de faire en ce moment dans les connexions magiques, par exemple, c'est des activités au Québec que je ne suis pas là. On enlève un peu l'attention de sur moi. C'est les femmes, c'est les paillettes qui comptent. C'est pas juste le one woman show. C'est ça, je vais aller le faire sur une scène avec un éclairage et un micro. Ouais. Mais sinon, dans des événements ou des moments comme ça, qu'elles puissent, elles, connecter entre elles puis qu'elles vivent, évidemment, ça revient toujours à ça, mais de la magie, de la réelle magie. Un peu comme quand tu vas à Walt Disney puis tu reviens, tu fais « Mais voyons, c'était quoi ça? » C'est ouais. Pas vrai, mais c'était de la magie.
Ouais.
Ça se peut. Fait que ce serait vraiment là que je voudrais diriger ce côté-là de paillettes.
Ah, écoute, je comprends tellement parce que toutes les immersions que j'organise, tu sais, écoute, après une journée, les clientes disent, mon Dieu, on a déjà notre argent. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
C'est comme, parce que les connexions, les amitiés, les partenariats, parce qu'on a le temps d'apprendre à se découvrir, à se connaître, à échanger. Fait que, tu sais, oui, il y a la coach, oui, il y a la Mélissa, mais au-delà de ça, il y a les autres membres, il y a les autres, t'sais. Donc, cette communauté-là, tu sais, serrée, ça fait des liens tellement puissants. Fait que je te comprends tellement. Ça amène une immersion, là. On a le temps d'apprendre, d'intégrer, mais surtout de le mettre en place en venant.
Absolument.
C'est ça qu'on leur donne, hein? On leur donne le loisir d'avoir le temps de faire ça. Dis-moi, Mélissa, quel est le meilleur endroit pour suivre justement les paillettes et pour être une paillette?
Le meilleur endroit, on a évidemment Instagram, Mélissa Normandin-Roberge, Paillettes Inc., Facebook, même chose, YouTube, on est beaucoup aussi sur YouTube. J'ai ma communauté gratuite qui est Née pour briller. J'ai envie de dire, faites briller votre potentiel, c'est l'ancien nom. Mais Née pour briller, je donne énormément de contenu gratuit, puis c'est important pour moi de le faire aussi. On a des programmes vraiment de tous les prix, parce que évidemment, on crée ça dans notre quotidien, des programmes de formation. Mais sinon, pour le contenu gratuit, vraiment, toutes les plateformes Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, c'est pas mal les meilleurs endroits pour nous trouver.
Excellent. Puis dis-moi, Mélissa, toi, en tant que présidente de ton entreprise, bon, on comprend, tu es la visionnaire, tu veux, mais est-ce que c'est toujours dans ton désir de continuer d'accompagner peut-être des membres plus VIP, plus, est-ce que tu continues de le faire aujourd'hui ou?
Oui, je le fais, on a effectivement le cercle prestige, en fait, c'est pas le cercle, mais c'est le regroupement prestige, qu'on accepte, c'est comme une quinzaine de femmes qu'on a actuellement qui vont aller en retraite au Québec, sans moi, parce que moi, je suis là vraiment pour garder, en fait, cet espace-là, et on veut vraiment qu'elle fasse des belles connexions et tout, puis je trouve que c'est un hybride absolument incroyable, c'est-à-dire que je suis là à proximité, mais je ne suis aussi pas là, en proximité, c'est vraiment les deux, donc oui, on va continuer de le faire, c'est sûr que il y a vraiment quelque chose qui m'appelle toujours dans le coaching, dans le mentorat, et qui m'empêche pas de développer tous les autres projets ultra créatifs. Donc oui, je vais continuer de le faire parce que c'est tellement riche comme échange et c'est rare qu'on peut avoir des conversations de haut niveau comme ça avec des gens. Faut être prêt à ce genre de conversation-là. Donc c'est sûr que moi, ça me nourrit énormément et évidemment, ça va faire partie de mon plan de carrière pour les prochaines années.
Good. Et si je te donnais le mot de la fin, tu nous dirais quoi?
Moi, je finis souvent avec ça, mais la grande prise de conscience que j'ai fait post-Barbade en 2016, c'était que la vie passe tellement vite qu'il n'était plus question que je perde une seule seconde. Puis ce que je dis souvent à mes filles, c'est que aujourd'hui, donc on est le 17 avril, c'est la première et dernière fois qu'on vit cette journée-là. C'est terminé, après elle ne reviendra pas jamais, c'est fini. Est-ce que le fait d'être hors norme et de, par exemple, planifier son prochain voyage alors que il y a mille et une raisons qui nous empêchent de le faire, est-ce que ça vient de tomber peut-être prioritaire quand t'as, dans l'optique, en fait, que t'as une vie à vivre, puis dans l'optique que la journée d'aujourd'hui, elle reviendra pas? Et pour moi, c'est cette philosophie-là change beaucoup de choses dans mon quotidien. C'est beaucoup de micro-décisions qui, des fois, vont comme juste faire « Oh, ça, c'est pas si important que ça, finalement, dans ma journée, considérant que c'est la dernière fois que je la vis. Et c'est quelque chose qu'on peut se rattacher très souvent parce que ça va donner l'élan à beaucoup de rêves, je pense, de se réaliser quand on se rappelle ça.
Wow! Mais quelle belle fin!
J'ai envie de faire des belles fins!
Mélissa, écoute, c'est un bonheur. Je pense que j'aurais jasé avec toi encore pendant 2 heures, mais je sais que tu as un
Absolument pas.
agenda chargé. Donc, je te remercie infiniment d'avoir passé ce temps-là avec nous. C'était un pur délice de t'entendre comme toujours, de te suivre, de te regarder, de regarder tes photos magnifiques. Hein, tu sais, comme je te disais d'entrée de jeu, je te vois en sirène, puis moi, j'ai un tatou de
Mais
sirène.
oui.
Fait que, tu sais, c'est comme à chaque fois que je te vois, je fais comme, ah oh oui, moi, je pense que je vais partir à un club des sirènes.
Oui, absolument.
Mais à la tête. Donc, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci aux auditeurs de nous écouter, de partager cet épisode qui est fabuleux, hein, qui est inspirant et qui va peut-être changer ne serait-ce qu'une histoire d'une femme qui va prendre la décision à partir d'aujourd'hui de se mettre en priorité et de mettre ses rêves en priorité. Je pense que c'est ça un petit peu le message que Mélissa nous a lancé. Donc, merci tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore merci, Mélissa. Et on se dit à bientôt.